Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Avant de retourner comme promis sur le chantier de fouilles au Mas des Tourelles à Beaucaire avec Fabrice Bigot, il m'a pris l'envie, les apercevant travaillant d'arrache-pied en plein soleil, et il m'a pris l'envie d'aller interviewer quelques-uns des fouilleurs de cette équipe de cette année. Ils sont 19, je n'en interviewerai que 3. 19 alors que Fabrice disait que cette année, il voulait recruter peu d'étudiants. Mais face à la demande d'une part, alors il faut aller sur le site du ministère pour s'inscrire, face à la demande d'une part et à la qualité de ces demandes, eh bien, ils ont élargi le nombre de ces stagiaires archéologues. On les écoute, ils sont 3. Alors, je m'adresse à qui ? Alors,
je m'appelle Alexandre et j'ai 20 ans. Je suis en première année d'archéologie à l'Université de Tours.
À l'Université de Tours. Donc quand même, c'est pas tout près. Et vous êtes venu avec votre tente, votre sac de couchage. On a vu toutes les installations là-bas. Et vous êtes là depuis un petit mois, quoi, c'est ça ?
Exactement, oui.
D'accord. Et est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait ?
Ah oui, je suis très content. On a bien avancé. Et puis, c'est mon premier site de fouille, donc j'ai appris plein de choses. Et surtout en pratique, c'est cool.
Alors qu'est-ce que vous avez découvert, si vous avez découvert quelque chose, et qu'est-ce que vous avez appris sur la pratique de l'archéologie, par exemple ?
J'ai appris à faire attention à mes unités de fouilles, pour le coup. Parce que vous savez, on a plusieurs unités de terre à étudier, et on doit les étudier couche par couche.
Voilà, il ne faut pas massacrer les couches.
Exactement, et parce que elles apportent des informations super importantes sur la datation des... Par exemple, des amphores qu'on retrouve, là, vous en avez vu sûrement avec Fabrice tout à l'heure.
Oui.
Du coup, ça nous permet de savoir ce qui arrive avant, après. Et là, par exemple, plus c'est profond, plus c'est ancien, du coup.
Et là, vous êtes dans quelle partie et qu'est-ce que vous cherchez ?
Voilà, pour l'instant, on est en train de découvrir un mur qui a visiblement été effondré sur le côté. Mais pour l'instant, on essaie de définir ce que c'est. Et on est en train de par exemple, là, de faire le... graphique d'unité de stratigraphie de terre.
Et alors à côté de vous, et il y a votre copain, et votre copain il s'appelle comment ?
Je m'appelle Joachim, j'ai 19 ans et je suis en L2 d'archéologie donc à l'université de Toulouse où je reste.
D'accord, donc tout le monde vient de tous les coins de la France.
C'est ça.
Voilà.
Des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent surtout de la région, ils sont surtout près des gens de la région, Fabrice, mais autrement il y a beaucoup de gens du reste de la France.
Et alors, vous non plus, vous n'êtes pas déçu ?
Non, pas déçu, mais c'est ma seconde fouille. Donc,
et vous étiez où la première fois ?
J'étais en Corrèze, au château de Ségur, donc c'était une fouille médiévale. Donc
d'accord.
C'est tout à fait différent.
Et alors, vous, c'est l'Antiquité votre truc ou plutôt le médiéval ?
Ce qui m'intéresse, c'est l'Antiquité et le haut Moyen-Âge.
Oui.
Et autrement, je suis encore assez peu décidé là-dessus.
Et vous voulez devenir archéologue tous les deux ?
C'est ça.
D'accord.
Oui.
Et il y a donc une procédure pour accéder à cette campagne de fouilles. Donc vous étiez allé sur un site, vous aviez proposé votre candidature, c'est ça ?
Oui.
Et alors je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de candidats alors que Fabrice désirait avoir une toute petite équipe et finalement il n'a pas une si petite équipe que ça, puisque je crois que vous êtes 19, c'est ça en tout ?
C'est ça.
Et alors ces 19, c'est plus qu'il ne voulait, mais il faut croire qu'il vous a trouvé un profil intéressant. Et comment il s'est assuré que vous étiez les bonnes personnes ? Est-ce que vous avez passé un entretien ? Comment ça s'est passé ?
Pas passé. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas passé d'entretien. Je lui ai envoyé un CV et... un mail de motivation et il m'a répondu la semaine suivante. Je suis intéressé.
Donc, ça devait être bien présenté. Et vous aussi,
oui.
C'était pareil ?
Oui, c'est la même chose en fait avec la plupart des demandes de fouilles en fait qu'on retrouve sur le site du gouvernement en fait. On envoie un CV, une lettre de motivation et puis voilà.
Ben c'est génial, ça donne de l'espoir à plein d'autres. L'année prochaine, vous allez repostuler, peut-être pas au même endroit, puisque de toute façon, l'année prochaine, il n'y a pas de fouille ici, hein, je crois.
Non, c'est la dernière fouille.
C'est la dernière. Et alors, une fois, je crois que c'est vendredi prochain, donc dans 2 jours que vous arrêtez, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ça va faire un grand vide, non ?
Un peu, ouais.
Oui.
Mais on a quand même prévu avec les autres gens de la fouille de se revoir quand même, parce que ça fait un mois qu'on est tous ensemble.
Bah oui, j'imagine que c'est assez terrible de se quitter. On a l'impression que, voilà, on n'a pas fini.
Non, c'est vrai.
Merci beaucoup et bonne chance pour votre parcours d'archéologue.
Merci.
Au revoir. Alors voici une troisième archéologue en herbe. Vous vous appelez comment ?
Lauriane.
Lauriane. Alors vous venez de quel endroit de France ? Parce que j'ai vu que ça venait de tous les côtés.
De Franche-Comté, de Besançon.
Besançon, c'est pas tout près. Oui. C'est pas le même climat non plus. Hein.
Non.
Alors est-ce que vous êtes contente de cette période qui hélas va s'achever vendredi ?
Oui, très contente.
Et qu'est-ce que vous diriez qui vous a le plus plu dans ce mois de juin ?
Je dirais les différentes structures que j'ai pu fouiller. Très différente et très enrichissante.
Et c'est dans le cadre de vos études ou c'est par pure curiosité ?
Oui, études.
Alors que vous en êtes dans vos études ?
Je suis en Master 1 archéologie, sciences pour l'archéologie.
D'accord. Donc c'est le début d'un long parcours, mais ça y est, vous savez que c'est ça que vous voulez faire. Bon, mais merci beaucoup et bonne chance. Au revoir.
Ce qu'on sait, c'est que ce hangar, il fonctionne, il est construit le long du chemin. Et devant ce hangar, on a une grande cour excavée. Et au fond de cette grande cour, on a eu la belle surprise de découvrir une grande fosse qu'on voit juste là-bas. Alors, au moment où on l'a découvert, on s'est dit, ici, on est sur un puits peut-être. Donc finalement, on n'est probablement pas sur un puits, puisque vous voyez qu'on est déjà au fond et qu'on n'a pas la nappe phréatique. La nappe phréatique, à l'époque romaine, on le sait parce qu'on a testé deux autres puits, durant l'époque romaine et jusqu'au Moyen-Âge probablement, elle est à 1,80 m par rapport au terrain de galets de la Cossière, la surface de la Cossière. Elle n'a pas évolué pendant toute l'époque romaine. Là, elle est un peu plus profonde maintenant. Ici, on est trop haut. Et le trou que vous voyez ici, ça a vraiment l'aspect d'une fosse d'olium. Donc encore un de ces fameux dolia. Sauf qu'ici, on n'est pas dans un fait. Il faut s'imaginer plutôt un dolium qui a été cassé.
Et c'est ça ?
C'est pas ça. Ah. Le dolium, il a été cassé, il a été mis probablement en fond. Et comme on est dans une cour excavée qui récupère les eaux pluviales, ça servait probablement d'abreuvoir pour les animaux.
Ah oui.
Et ensuite, il a été récupéré, ce dolium. Et dans un second temps, ils ont mis ce que vous voyez ici, un fond d'amphore à huile qui vient du sud de l'Espagne et qui a exactement la même vocation. Elle est plus petite.
Et vous l'avez trouvé tout cassé.
Et on l'a trouvé cassé. Mais cassé, mais avec les panses qui étaient collées contre la paroi de notre.
Donc ça a accrédité votre thèse, oui.
C'est ça. Et probablement qu'ils ont essayé de la récupérer, qu'au moment de la récupérer, ils l'ont cassé. Donc ils ont laissé les fragments. C'est dommage pour eux, mais c'est intéressant pour nous, parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe.
C'est
le fond de l'amphore.
Oui. Mmh.
Et avec ce fond, en plus, on peut réussir à avoir une idée de quand elle
de la taille globale.
La taille globale et aussi de quand elle date.
Ah, oui.
Ça, c'est une amphore qui a transporté de l'huile, qui vient d'Andalousie.
Oui, j'allais dire d'Espagne.
Qui a été produite durant la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ.
Est-ce que vous allez la reconstituer?
Alors,
beaucoup de morceaux,
on va essayer, je pense.
Ça vaut la peine, parce que là, il y a beaucoup. Hein,
ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça donne une image de la céramique. On ne recolle pas tous les panses de céramique qu'on trouve sur le site.
Ça peut être un atelier puzzle hein, pour les enfants.
C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, on peut voir à quoi ça ressemble.
Ouais.
Donc, ça a un intérêt. Et donc, l'espace où on se trouve, une fois que... cet abreuvoir a finalement été abandonné parce que comme on est dans une cour excavée et qu'on a l'entrée de notre bâtiment, vous voyez les galets qui sont dans le mur, ça c'est un accès. Sauf que comme ils ont une cour excavée juste avant, ils devaient, en cas d'épisode sévenol, avoir le problème de rétention d'eau ici. Donc ils ont tout remblayé jusqu'au sol sur lequel on circule actuellement. Et c'est seulement dans un troisième temps que sont creusés les fosses qui sont remplies, comme vous voyez, de tessons. Mais avant d'être remplies de tessons, elles ont d'abord servi de bassins de décantation pour l'argile. Et les bassins de décantation pour l'argile, quand on les retrouve sur les sites le plus souvent, ils ont cet aspect-là. Vous voyez, ici, vous avez, le principe est toujours le même. Vous avez un petit bassin pour faire décanter l'argile. Donc, on récupère l'argile au pied de la poussière. On la met dans ce bassin. Les éléments les plus lourds, donc les impuretés, vont tomber au fond du bassin. Et ensuite, l'argile très fine va couler avec l'eau à travers une canalisation qui va être faite en tuile et s'écouler dans un bassin qui est creusé plus profondément, un grand bassin. Après, on va laisser l'eau s'évaporer et il y aura l'argile pure qui sera au fond du bassin. Et ces bassins, on va mettre des tuiles au fond et contre les parois pour pouvoir éviter que lorsqu'on récupère les argiles, d'ajouter des impuretés dans notre argile.
Ça n'est propre.
Exactement. Sauf que c'est pas tous les. Ça, c'est le cas de figure le plus. Le mieux construit. Mmh. On a des cas de figure dans d'autres ateliers où on a juste les tuiles qui sont sur les parois et au fond, ils laissent l'argile. Et comme ça, ils ne curent pas entièrement. Mmh. Comme ça, l'argile préserve l'argile qui va être exploitée par les potiers des impuretés. L'argile qui est laissée au fond. Dans ce cas de figure présent, on n'avait pas ce système-là. On avait juste des fosses qui ont été creusées et l'argile, ils les ont laissé tapisser à la fois le fond et les parois des fosses. Et pourquoi ils font ça? Parce que les tuiles, au moment où ils construisent ces fosses, elles ne sont pas fabriquées dans l'atelier. Et donc, ça coûte cher d'acheter des tuiles pour juste faire des bassins. Donc, ils utilisent une méthode qui est beaucoup plus rustique, avec juste de l'argile au fond des fosses. Sauf qu'au 3e siècle, l'atelier il produit des tuiles. Et ce qu'on a découvert cette année en dégageant le mur sud du hangar, c'est un de ces bassins qui date du 3e siècle et qui utilise justement des tuiles dans sa mise en œuvre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait quand on a commencé la fouille en 2019. Il faut qu'on trouve ces fameux bassins qui sont faits en tuiles, qui sont très caractéristiques, qu'on retrouve dans tous les ateliers. Il a fallu attendre cette dernière campagne pour réussir à mettre au jour
la petite cerise.
Voilà. Ah oui, là oui.
Donc vous voyez,
là ça a bien une allure de bassin.
Alors pour la petite histoire, dans le cadre de la mise en valeur, on comptait dégager entièrement son hangar puisque le mur qui le ferme au sud n'avait pas encore été dégagé. On avait juste l'angle du bâtiment. Que ça serait intéressant de le dégager. Et au moment où on l'a dégagé avec une pelle mécanique, on a mis en évidence une ligne de tuiles et on a construit.
Mais ces bords, c'est vous qui les avez placés ou c'était comme
Alors,
ça
c'était comme ça.
C'était comme ça.
C'est vraiment les Romains qui ont creusé cette grande fosse, qui ont calé les tuiles contre les parois.
Pour soutenir bien l'ensemble.
Pour soutenir l'ensemble. Et après, on n'a pas de tuiles au fond, puisqu'on voit qu'apparaît, si vous regardez dans l'angle, le terrain naturel. Ouais. Juste laisser une couche d'argile au fond. Et quand ils nettoyaient, quand ils voyaient apparaître la base de leur tuile, ils savaient qu'ils étaient au fond, ils ne descendaient pas davantage. Comme ça, ils gardaient de l'argile très pure qui pouvait être exploitée.
Vous voyez que ça se prolonge là, vous n'avez dégagé qu'une partie.
On a dégagé qu'une partie parce qu'on avait un temps limité avec notre engin mécanique. Et du coup, on n'a pas eu le temps dans le cadre.
Alors c'est des engins que vous louez, c'est ça, donc vous êtes...
Ouais. Donc la fouille, elle fonctionne grâce aux subventions du ministère de la Culture, de la région Occitanie et du département du Gard. Avec ces subventions, on loue les engins mécaniques, on finance la fouille, les outils qui sont utilisés pendant la fouille, on paye également la nourriture pour les fouilleurs.
Oui, c'est ce que j'allais poser parce que c'est le nerf de la guerre quand même.
Oui, exactement. Là, on a de la chance au Mas des Tourelles, c'est que les propriétaires ils nous mettent à disposition le lieu d'hébergement. La réponse à cette question, on l'aura lors de la phase de post-fouille, puisqu'on a prélevé du charbon ici et on va faire une datation C14 pour savoir de quand il date. On sait, grâce au mobilier archéologique qu'on a découvert dans ce bassin, qu'il est daté du 3e siècle.
D'accord.
Et c'était quoi le mobilier archéologique?
Alors c'est essentiellement des fonds d'amphores de Gauloise 4.
Oui.
Mais en fait, ces amphores Gauloise 4 qui sont produits dans l'atelier, ils ont une métrologie. Donc la forme, le diamètre de l'embouchure, le diamètre du fond, il se réduit dans le temps.
D'accord. Oui.
Et ça, cette réduction dans le temps, c'est lié au fait que les potiers vont utiliser la même quantité d'argile pour essayer de faire des conteneurs qui vont avoir une capacité de plus en plus grande.
Et oui, la rentabilité.
Exactement. Si vous voulez, à la fin du 1er siècle, Nos amphores Gobascates, elles contiennent 30 litres. Et au 3e siècle, elles contiennent en moyenne 37 litres.
D'accord.
Ils ont gagné 7 litres. Donc, quand il s'agit de transporter du vin depuis Beaucaire jusqu'au mur d'Adrien ou jusqu'à Alexandrie, et ben le fait, si vous avez des amphores qui contiennent 37 litres plutôt que 30 litres,
puis ça pèse dans les bateaux, plus il y a d'amphores, plus ça pèse.
C'est-à-dire qu'avec 3 amphores, vous conditionnez quasiment, enfin 4 amphores, vous conditionnez autant de vent qu'avec 3 autrement, au 3e siècle. Donc du coup, pour les marchands, c'est super rentable. Ce qui les intéresse, c'est le vin qu'il y a dedans, pas le contenu. Et donc notre bassin ici, vous voyez, il prend place juste dans ce secteur qui est dédié à l'artisanat potier au 3e siècle. Et il prend place dans un ancien bâtiment qui a été détruit, parce que vous voyez que juste à l'extrémité de notre site, vous avez notre bassin qui se prolonge là, qui vient se fermer juste là. Vous voyez,
ouais.
Il fait à peu près 10 mètres carrés notre bassin. Et il vient détruire un mur qui est plus ancien et qui est lié à notre bâtiment au 2e siècle. Au 2e siècle, vous imaginez que vous aviez ici un appenti qui était appuyé contre ce grand hangar et qui était ouvert sur la voie, vous voyez juste à côté de la voie, et le sol en galet sur lequel vous avez les pieds, ça permettait d'accéder à cet espace couvert qui servait soit à stocker les bois, soit à stocker les charrettes, puisque il ne pouvait pas fermer au niveau de la voie. Et donc les deux dernières découvertes intéressantes pour cette campagne, clôture parfaitement les questions qu'on s'était posées et même au-delà, c'est que on se posait la question, on a une canalisation en bois qui avait été observée lors des années précédentes qui part des vignes ici et qui rejoint le grand bâtiment qu'on a là-bas, vous voyez le trou dans le mur qui est juste là.
On va
s'avancer pour le voir de plus près, là-bas.
Ah oui, je le vois, ça y est.
Laisse passer une canalisation
en bois
qui correspond à une adduction d'eau. Et cette adduction d'eau, on se demandait, parce qu'on avait, on n'avait pas encore fouillé la zone entre. Au-delà, derrière moi, on n'avait pas encore fouillé la zone. Donc on ne savait pas vers où se dirigeait cette canalisation en bois. Donc l'objectif de la fouille, c'était de voir si cette canalisation, elle tournait vers les pièces d'à côté, ou si elle continuait au sein de ce bâtiment. Et c'était important comme question parce que cette canalisation, elle est installée après la construction de ce grand hangar qui date du milieu du 2e siècle. Elle sert à alimenter une structure hydraulique, on ne sait pas laquelle, mais au moment où ils construisent le petit four qu'on a fouillé l'année dernière, elle est toujours en fonction. Et par contre, puisqu'elle continue tout droit, c'est ce qu'on a observé, au moment où ils construisent ce grand four, donc là on est au 3e siècle, elle n'est plus en fonction. Et ça répond aux questions sur la chronologie de nos fours, comment ils se succèdent dans le temps. C'est-à-dire que le petit four qu'on a fouillé l'année dernière, il est abandonné dans le courant du 3e siècle, on ne savait pas quand exactement. Mais au moment de sa construction, le mur qui le protège, il conserve la canalisation en bois. Ils savent qu'elle existe, ils la conservent, ils ne l'abîment pas. C'est-à-dire que notre localisation bois est utilisée. Et par contre, quelques années plus tard, quand ils construisent ce grand four, là, ils détruisent la localisation bois. Ça veut dire que ça suggère que notre petit four, qui est bien plus petit que les autres, et on se demandait pourquoi ils avaient fait un si petit four, bah peut-être qu'il a été construit de manière très provisoire. Parce que avant de construire ce grand four en fort au sein de ce bâtiment, vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué l'année dernière, ce bâtiment c'est un ancien grenier qui est constitué avec deux lignes de gros blocs comme ça qui font moins une bonne tonne. Et il faut s'imaginer que c'est un grand bâtiment à plusieurs étages. Donc le temps de le démanteler ce bâtiment, il faut quand même continuer à fabriquer des amphores pour embouteiller le vin. Or le four qui est là-bas ne fonctionne plus. Donc probablement qu'à ce moment-là, ils ont fait un petit four à renfort
pour
approvisionner le domaine. Ils ont démantelé ce bâtiment. Et une fois que ce bâtiment est démantelé, le four construit, ils ont abandonné ce petit four à renfort pour avoir une vraie belle structure artisanale, fonctionnelle, et qui pouvait produire non pas 300 renforts par fournée, mais plutôt 600.
donne une
amphore. Oui, tout à fait.
C'est le fond.
Exactement. Ah, ouais. En fait, là, on marche vraiment, vous voyez, on marche sur les déboutoirs, tout là où on a les pieds, et jusque quelques rangées de vignes. Dans ce sens-là et dans ce sens-là, on a ces dépotoirs qui se développent. Les rejets des potiers, de plus de 100 ans de rejets de.
Ça, c'est un col par contre.
Oui, c'est un col.
C'est la lèvre,
oui,
tout à fait. Mmh. Et donc, nous, vous voyez que là, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière, on n'avait pas toute cette façade.
Non,
là, elle est bien.
L'idée, c'est vraiment. On travaille vraiment sur cette question de cette problématique. Il faut rendre le site, il est très clair pour les archéologues. Mmh. Les collègues archéologues qui viennent, on leur montre en point une vidéo. Mais le site, il ne doit pas être clair que pour les archéologues. Il faut que n'importe qui puisse venir et comprenne qu'on est dans un espace et quelle structure on a dans l'espace. Donc le travail qu'on fait dans le cadre de la mise en valeur, c'est faire bien ressortir nos espaces et masquer tous les vestiges plus anciens ou trop récents.
Oui, c'est ça, ce qui est difficile, c'est de mesurer les dents du temps, quoi. Voilà, c'est de voir le décalage. Ouais.
Et en fait, ce que nous, on met en place, c'est que dans ce secteur-là, on va montrer l'atelier de la première moitié du 3e siècle. Donc on va voir le faux de cette période, les hangars qui sont qui fonctionnent à cette période, et peut-être aussi ce bassin de l'argile. Et de l'autre côté du chemin, on va montrer la villa de la seconde moitié du 19e siècle. On reste sur cette problématique de l'atelier d'Amphore, parce qu'on a ce four qui est très bien conservé là-bas. Il mérite quand même d'être montré aux visiteurs. En plus, on comprend bien la fonction de ces espaces. Mmh. Comme vous aurez bien compris avec ma visite, qu'il y a plein d'espaces, puisque il y a des travaux, des remaniements et de la destruction ensuite, après l'Antiquité, on est bien en peine de savoir qu'est-ce qu'on y a fait. Même si on peut toujours proposer des hypothèses, ça reste que des hypothèses. Alors qu'il y a deux espaces, pour certaines périodes, on sait exactement ce qu'on y a.
C'est passionnant et passionnant, merci de nous avoir donné toutes les clés, enfin autant qu'on puisse les avoir. Et dernière petite question pratique, après peut-être j'irai interviewer les petits jeunes gens là qui cherchent. C'est quoi les horaires de travail pour faire toutes ces trouvailles?
Alors on commence à 6h le matin, on travaille jusqu'à 13h pour éviter les grosses chaleurs. Et après, en général, on fait deux ou trois fois ce qu'on appelle de la post-fouille dans la semaine. Ça correspond essentiellement à laver la céramique qu'on met au jour sur le site, tamiser les prélèvements de terre qu'on va faire, et ensuite on essaye, comme c'est, on a des jeunes qui viennent des quatre coins de la France, on a même de l'étranger, cette année on a une Mexicaine qui a rejoint l'équipe.
Elle est venue avec son sombrero, j'espère. Hein.
C'est bien. Avec son chapeau, pas si ce soit un sombrero. Mais voilà, donc l'idée c'est aussi de leur montrer le riche patrimoine archéologique qu'on a dans le secteur. En plus, bon, avec Quentin Desbonnets qui co-dirige la fouille, on connaît très bien les sites, on sait comment ça fonctionne, par exemple la meunerie de Barbegal qui est pas très loin. Quand on va avec des archéologues, c'est beaucoup plus visible. Donc on amène les jeunes là-bas et on leur montre les vestiges, on leur explique.
Comme ça, pour voir toutes les connexions entre les différents sites.
Ça, donc on organise une visite par semaine. Donc soit d'un site qui existe déjà, soit d'un site archéologique en cours de fouille. Que ce soit en archéologie préventive ou en archéologie programmée. Ça complète bien leur formation.
Et alors justement, ces jeunes, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a un site où ils peuvent proposer leurs services pour la campagne de fouilles, que là vous aviez eu énormément de demandes. Une fois qu'ils ont terminé, est-ce qu'ils font ça dans le cadre de leurs études? Est-ce qu'ils font ça simplement par curiosité? Ou bien est-ce que ça s'intègre à un cursus?
Pour la plupart, ça s'intègre à leur cursus universitaire. Après, il y a aussi des passionnés qui nous contactent pour pouvoir venir fouiller.
Il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre?
Oui. Et l'idée aussi, comme on fait de la formation, justement, qu'il y a beaucoup d'étudiants, on fait de la formation, l'idée c'est de former les jeunes à leur futur métier d'archéologue, et d'une année sur l'autre, on va leur donner de plus en plus de responsabilités au sein de l'encadrement, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, pour qu'ils puissent progresser, être en mesure, à l'issue de leur formation universitaire, de diriger des fouilles archéologiques, soit dans le cadre d'une fouille programmée comme ici, soit dans le cadre d'une fouille préventive au sein d'une structure comme la nôtre à Mosaïque Archéologie.
Des passionnés.
Mais est-ce que c'est comme ça que vous vous avez fait aussi?
Oui,
oui, voilà.
J'ai fait ma formation à ma licence à l'université de Rennes 2. J'ai commencé par des fouilles programmées au mois de juin, comme là. Je suis arrivé en 2010 dans le sud parce que je voulais travailler sur les amphores. Parce que j'allais débuter mon master 1. Donc j'ai fait des chantiers durant l'été. Et ensuite, j'ai continué les chantiers jusqu'à la fin de. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je continue. En programmé et en parallèle de mon cursus universitaire.
Mais là, vous êtes gâté, vous en avez trouvé des amphores.
Ah oui, là, je suis régalé. Hein. Le site est super parce que non seulement. Pour quelqu'un qui travaille sur les amphores comme moi, en plus les amphores produites dans la région, il y a des immenses dépotoirs.
Il y a de quoi s'amuser.
On a des timbres sur les amphores, donc du coup on peut réfléchir aux problématiques liées à l'organisation de l'atelier et puis au nom des
Oui, la titulature, oui.
Et en plus de ça, on peut avoir toute la chaîne opératoire de notre atelier de potier. Et c'est pas toujours le cas parce que ces sites en contexte rural. Ils sont abîmés par les charrues, abîmés aussi par les remaniements liés à l'occupation humaine, simplement.
Les constructions de routes qui sont passées par là, oui.
Même ici, hein, vous avez vu, on a le tunnel de la villa qui est sous la route. Donc,
voilà. C'est dommage.
Mais,
on voilà, peut la couper, c'est... celle-là, hein, ils font le tour.
Oui, mais après, les sondages montrent qu'il n'y a quand même pas grand-chose, parce qu'ils sont posés la route sur la terrasse de Galet.
Ah oui, d'accord.
Donc,
ils ont tout arraché. Ouais.
Mais bon, ça, c'est l'histoire de l'archéologie. En fait. Oui, l'archéologie, c'est faire un puzzle en 3D, mais avec des pièces manquantes. Le but du jeu, c'est de réussir à trouver l'image qu'il y a sur chaque face.
Ça permet de rêver.
Et voilà, c'est ça qui est rigolo aussi. Hein.
Eh bien, un grand merci. Et puis, on a hâte de pouvoir visiter la salle du musée, lire tout ce que vous aurez produit. Donc, dans quelques mois? Non. Dans quelques années. Ça va être long, hein?
Oui. Il y a un peu de travail, ouais. Dessus, hein. Mais bon, d'ici quelques années, si on peut faire la visite du site qui est bien mis en valeur et qu'en plus, on a publié la monographie, on pourra dire que ça aurait été une fouille programmée comme il faudrait que la salle soit toujours. Hein.
Vous allez y participer jusqu'au bout?
Ouais.
Oui.
Et donc le dernier jour c'est la semaine prochaine, c'est vendredi prochain.
Alors pour l'équipe de fouilles ça se termine vendredi là.
Ah ce vendredi là, voilà. D'accord.
Et après avec l'équipe d'encadrement on va continuer la semaine prochaine pour faire les dernières observations, les derniers inventaires des mobiliers, les dernières observations sur le terrain, les descriptions des couches, les descriptions des murs pour avoir toute la base de données. Pour pouvoir ensuite faire le rapport de fouille. Et c'est à partir de ce rapport de fouille qu'on pourra ensuite travailler sur la monographie.
Très bien.
Et la mise en valeur. Tout à fait.
Ben merci Fabrice Bigot. Au revoir.